Qu'est-ce qui se passe? Nous sommes en guerre avec l'islam. Tu mets, bon, c'est, ça passe où? Enfin, j'ai rien vu dehors, autour de la ville, il n'y a pas de guerre. Mais c'est pas vrai, vous ne vous rendez pas compte, ça arrive des parties comme ça dans une espèce de l'Europe. Enfin, ça est parti dans un très très long discours auquel j'ai d'ailleurs dû mettre fin. C'est quoi ce sentiment qu'il a? D'où vient ce sentiment? C'est qu'il est dans une angoisse, évidemment, d'une agitation profonde, un sentiment de peur. Nous sommes dans la vie. Nous sommes envahis, nous sommes en guerre avec les musulmans. En réalité, on est dans une société qui est une société qui est globalement moins violente, ou en tout cas qui a une tendance plus nette, au moins au niveau du discours, à refuser même de la violence. C'est absolument évident dans le monde de la famille. Bon, on dit toujours que il n'y a pas si longtemps que ça, finalement, qu'un instituteur pouvait donner, disons, une gifle à un enfant, et que quand il est rentré à la maison, puisqu'il en avait reçu une, il en recevait une deuxième le soir chez lui. Peut-être qu'il y a l'un ou l'autre d'entre vous qui a eu cette expérience. Bon, aujourd'hui, si un instituteur fait ça, il aura un trophée. Donc, la première gifle, il n'a pas la donnée. Bon. Deuxième chose, on lutte à juste titre contre les violences conjugales, on ne l'était pas autrefois. Alors, il y a un deuxième aspect aussi par rapport à Twitter ou le digital, par exemple, autre forme de violence. Aujourd'hui, ils sont systématiquement réfugiés. Il y a un deuxième aspect auquel on ne pense pas, mais alors là, c'est une étude tout à fait sérieuse et scientifiée d'une revue qui s'intéresse à la géopolitique, qui s'appelle la revue Hérodote. Et la revue Hérodote a montré, d'une manière incontestable, factuelle, ils ont compté, si vous voulez, combien de personnes étaient tuées par des guerres, des conflits, à l'échelle de la planète. Et ils se sont aperçus, contrairement à tout ce qu'on aurait pensé, parce que d'ailleurs moi je suis écrit aussi dans des éditoriaux, donc surtout ne lisez pas des éditoriaux, parce qu'ils me trompent beaucoup, on meurt moins de, dans la décennie qui s'affaire, et les dernières années, on est plutôt moins mort dans les conflits violents que dans les décennies qui précèdent, contrairement à l'impression que nous avons, par l'effet notamment du 11 septembre et tout ce qu'on dit autour de Ben-Laden. On est persuadé qu'on est rentré dans une logique conflictuelle et que le monde est de plus en plus violent. En réalité, ce n'est pas le cas. Voilà. Et l'étude des robots semblait même indiquer qu'il y a des années un petit peu de conflictualité, disons, que dans la période qui avait suivi les guerres napoléoniennes, c'est une période où on s'était un petit peu calme. Voilà. Donc, au fond, c'est assez étrange que nous ayons eu, vous et nous, à la vie, l'idée de parler de peur, parce qu'objectivement, quand on regarde les choses froidement, on n'a pas besoin d'avoir peur. Mais alors, de fait, on est dans une société qui est globalement devenue une société très intéressante, et ça, c'est très nouveau. Ce qui a vraiment changé, c'est qu'on est passé d'une société optimiste, pour l'époque des 30 glorieuses, à une société qui est globalement pessimiste, et en particulier les Français. Donc, toutes les études aussi de l'Union montrent que les Français sont devenus l'un des peuples les plus pessimistes, et que quand on demande si demain sera mieux ou moins bien qu'aujourd'hui, on répond tout naturellement que demain sera moins bien. Et il est évident qu'il y a 30 ou 40 ans, on avait tendance à penser que la situation des enfants, des générations après, serait une situation meilleure. Aujourd'hui, on a perdu ce sentiment-là. Et c'est ça, je crois, qui est en train de se passer. On est dans une société qui est globalement inquiète. Et alors ça, c'est vrai qu'on le voit très très rapidement, pour le coup, par plein d'autres indicateurs. Par exemple, quand on regarde la question du suicide, on a toujours parlé du suicide. Aujourd'hui, on parle du suicide de catégorie de population pour lesquelles on ne parlait pas du suicide, c'est les personnes âgées d'un côté, et c'est aussi des jeunes enfants de 10 ans, 12 ans. On commence à aborder aussi ces questions-là. Donc on voit bien à travers cette application, malheureusement, connue dans une société qui est profondément angoissée, qui s'angoissait alors là, de manière profonde, c'est-à-dire sur le temps même de l'espérance. Donc ça, c'est la première forme d'inquiétude. La deuxième forme d'inquiétude, c'est le sentiment de certaine impuissance. Ouais, on a le sentiment d'être complètement impuissant devant ce qu'on appelle la mondialisation, ou peut-être d'ailleurs, il faudrait savoir exactement comment on a dit ce mot-là, et peut-être surtout devant aujourd'hui ce qu'on comprend de la mondialisation, c'est-à-dire, en fait, ce n'est pas la mondialisation, ce n'est pas la toute puissance de l'économie, c'est, je reviendrai d'ailleurs, j'ai une petite seconde tout à l'heure, c'est plutôt la toute puissance de la finance, et ce n'est pas la mondialisation, c'est la financiarisation, et ce n'est même pas la finance, je reviendrai à la finance quelques instants, c'est l'accélération de la finance. Donc tout cela nous provoque un sentiment qui est un sentiment d'impuissance. Et puis je crois qu'il y a un troisième facteur qui se trouve, les deux premiers sont parfois abordés, mais je trouve que le troisième n'est pas du tout abordé, et j'aimerais en dire quelques mots, c'est le sentiment d'une déshumanisation croissante. Et c'est vrai que c'est pas quelque chose finalement qu'on parle tellement, on parle vraiment de la puissance devant la mondialisation, c'est quelque chose qu'on évoque, je dirais assez régulièrement, notamment dans les médias, le sentiment de perte de sens de l'existence, on l'évoque à travers donc, l'indicateur que je donnais, celui-ci. On pourrait d'ailleurs aussi élargir, se rappeler que la France est le pays qui consomme le plus de médicaments, qui consomme le plus de somnifères, donc il est très cher. Donc on a vraiment là aussi une preuve de notre inquiétude. En revanche, la question de la déshumanisation de notre société, je trouve qu'elle est insuffisamment abordée. Plus exactement, on ne rapporte pas les choses qui, à mon avis, ont à voir et qui, finalement, pour le coup, font que nous avons des raisons de pratiquer. La première chose dans cette déshumanisation, c'est, je dirais, la machinisation. La machinisation de notre société. J'ai eu la chance de vivre dans un pays où la technologie est très avancée, plus que nous avons. Vraiment de très grandes technologies de pointe qui rivalisent avec la nôtre, parfois la dépasse. Dans ce pays que nous voyons comme un pays de fourmis, un pays déshumanisé, dans le métro, il y a encore des poissonneurs, dans une ville comme Tokyo. Quand il y a une catastrophe, comme il y a eu la catastrophe de Fukushima, il y a des réseaux de solidarité qui se remettent en place, évidemment, tout naturellement, au niveau des communautés humaines villageoises. Partout, dans tous les secteurs de l'activité économique, il y a des personnes qui, aujourd'hui, chez nous, sont au RSA, ou sont peut-être même, en tout cas, sont des pouvoirs, même peut-être, sont des personnes qui sont dans la rue, qui occupent des petits emplois, et ces petits emplois permettent d'avoir du lien humain. Une personne dans un ascenseur qui est assise sur le bouton. Aujourd'hui, personne n'aurait l'idée d'employer une personne pour appuyer sur le bouton, c'est vrai, on peut appuyer sur le bouton solaire, évidemment, on est dans l'ascenseur, et on entend une petite musique, on est dans cette situation de déshumanisation. Dans ce pays, il apparaît comme un pays très technologique et vous avez souvent une personne qui appuiera sur le bouton de l'ascenseur qui vous accueillera sur le quai du métro aussi et qui sera donc là pour établir du lien. Donc la réanimation. Le deuxième facteur de déshumanisation, c'est, je crois, le triomphe de la technique. Alors, le triomphe de la technique, c'est un sujet assez délicat, parce que dans un premier temps, c'est du progrès, dans un premier temps, on a l'impression que à travers la technique, on va résoudre et répondre à nos besoins. En réalité, on est dans une société dans laquelle on a de moins en moins de pieds sur la technique. La technique dicte de plus en plus sa loi. Donc, dans un premier temps, on nous propose des progrès techniques ou technologiques, notamment dans le domaine médical. On dit que ça va être possible, telle situation sera possible. Et dans un deuxième temps, on s'aperçoit que on ne peut plus contrôler, on ne peut plus mettre une limite à ces évolutions de la technique. Et c'est tout le débat qu'on a eu, qui est un débat évidemment très intéressant, sur la bioéthique. Lié à ce deuxième point qui est plus entre de la technique, je vais assez rapidement, bah c'est tout le débat sur les nouvelles frontières de l'être humain, voire ce qu'on appelle le post-humain. Le post-humain, c'est un sujet très sérieux, vous avez des scientifiques, notamment principalement américains, mais pas seulement américains, réfléchissent, c'est de dire finalement, on va enfin se débarrasser de cette chose complètement dépassée sur l'être humain. On va remplacer les organes par des pièces rapportées. On va se débrouiller pour que la reproduction de l'être humain sorte du cadre naturel de la chaîne. Et on va fabriquer des êtres finalement mixtes, les cyborgs entre l'être humain et le robot. Ça paraissait de la science. Ce qui était du registre de la science-fiction devient dans certains laboratoires aujourd'hui du registre relativement visible. À une échéance finalement assez brève. On vous dit par exemple qu'on est en situation de remplacer un certain nombre de cellules pour atteindre sinon à l'immortalité, du moins à une vie tout à fait rallongée. Moi je crois profondément que autour de ça il y a une angoisse qui se noue et qui est sans doute plus forte que finalement on ne peut pas vraiment en parler parce qu'on va toujours nous vendre ce progrès technologique, et on a le sentiment d'être complètement dépossédé. D'un côté, vous allez voir, c'est formidable, on va avancer. J'ai un sentiment un peu dépossédé de notre choix de citoyen, d'être humain. Est-ce que c'est vraiment le monde vers lequel on veut aller? On nous y amène malgré nous. Et derrière cela, est-ce que c'est un progrès réel de l'humanité, ou est-ce que c'est juste un calcul de marchandisation et un calcul économique, et puis faut que tu écoutes derrière tout ça, qu'il y a des intérêts, des lobbies, des labos, c'est parfois la même chose, qui œuvre en réalité à cette déshumanisation par la post-humanité. Alors, je crois que c'est pour ça qu'on est dans une société, qui est aujourd'hui une société qui est profondément inquiète, parce que sur ces questions-là, pèse quand même un certain tabou. Et la raison pour laquelle j'ai voulu organiser, donc j'ai voulu un mot d'état de l'économie pour que vous puissiez voir de quoi il s'agit, la raison pour laquelle j'ai voulu, pour ma part, aborder cette question de la peur cette année, c'est que je crois que le danger, c'est de mettre les peurs sous le tapis, en disant on va les cacher, on va les refouler, et comme ça ira mieux. Je crois que plus on fait ça, plus la peur monte et plus le populisme, on va en reparler, peuvent monter, plus les intégrismes peuvent aussi monter. Je crois qu'il ne faut pas avoir peur de la peur. Il ne faut pas avoir peur d'aborder les questions les angoisses les plus profondes de notre société. Je trouve très courageux, par exemple, que le médiateur de la République, il y a notamment cela, deux ans, il fait un rapport annuel disant on est dans une société qui est une société psychiquement fragile, inquiète, angoissée. C'est un rapport qui a fait d'ailleurs un certain bruit, c'était un espèce de choc parce que tout d'un coup, une institution officielle, le ministère de la République, disait mettez le doigt justement sur cette angoisse de notre société. Et donc, de mon point de vue, sur ce paradoxe, on est la société la plus prospère de l'histoire de l'humanité, on est la société où on vit de plus en plus dans le confort matériel le plus grand. Notre mode de vie, certes, ressemble un petit peu menacé, mais enfin, d'un côté, pour la majorité des Français, leur mode de vie n'a pas changé de manière négative en profondeur, en dehors de la question du pouvoir d'achat. Et en même temps, donc, on est dans cette enseigne. Voilà. Alors, moi, voilà pourquoi j'ai voulu aborder la question de la peur au détail de l'éducation. Il y a le sujet d'un deuxième facteur qui va, qui est lié au précédent, c'est que, on s'aperçoit que, en même temps, il y a des instrumentalisations de nos peurs, et ceci, pour le coup, peut nous faire peur. Ces instrumentalisations des peurs, ce sont les populismes et ce sont les intégrismes. Et c'est vrai que quand on a vu, avec son ami, quand on dit que au fond, on commence à déliminer des catégories de population en disant ces populations sont responsables de la crise de notre société, ces populations n'ont pas leur place chez nous, je pense notamment à la question des Roms. on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on fait de cette peur qui est en train d'être instrumentalisée, qui est une peur de l'autre. Il y a sans doute, il y a évidemment des problèmes avec tel ou tel groupe humain, cette communauté, mais qu'est-ce que ça veut dire de dénoncer une catégorie de la population en disant c'est la source de nos problèmes. Voilà, donc ça c'est un cas particulier, mais il y en a d'autres. Au fond, on sent bien quand même monter les populismes européens. Ce qui se vérifie dans le cadre de la France est vrai à peu près dans tous les pays d'Europe. Et vous vous souvenez évidemment ce qui s'est passé en Norvège, où on a vu même une société, là c'est le cas, l'archétype d'une société, celle que vous avez soulevée, c'est la société dans laquelle objectivement il n'y a pas de raison d'avoir peur, c'est une des sociétés les plus prospères du monde, c'est une société où le niveau de vie est extrêmement élevé grâce aux revenus des hydrocarbures, c'est une société dans laquelle il y a relativement peu migré, d'ailleurs heureusement qu'il y en a parce que c'est eux qui occupent les emplois que les nationaux ne veulent pas occuper, et c'est produit cet acte en charge sur la France. Donc on sent monter à l'échelle de tous les continents européens des populismes qui d'ailleurs sont assez se ressemblent tous. Ce sont des populismes d'un genre nouveau, parce que finalement ils appuient justement sur des malaises, des mal-êtres identitaires que l'on avait refoulé en les jugeant totalement ringards. Et à ce populisme correspond évidemment des nationalismes. On le voit, on l'a vu encore ces derniers jours à travers la polémique autour d'une pièce de théâtre à Paris, à travers l'incendie du journal Paris Hebdo qui avait publié des caricatures sur l'islam. On sent monter cette peur de l'autre et cette peur du futur. Je crois que la combinaison de ces deux peurs, peur de l'autre et peur du futur, qui nourrit ces intérêts. Alors, moi je crois que je vais essayer de dire un peu plus tard comment on en a dit, il convient d'y répondre. Finalement, je crois qu'il y a quatre, il y a trois, disons, grandes catégories de peurs dans notre société. Il y a des peurs qui sont liées à l'accélération du temps, il y a des peurs qui sont liées à la déshumanisation, dans les mêmes mots, et puis il y a des peurs qui sont liées à la surexploitation au fond de notre planète. L'accélération, j'ai parlé de voiture tout à l'heure, des peurs qui sont liées à l'accélération, on se demande, quand on regarde ce qui est en train de se passer, sur le plan de l'économie et à la fin de la crise de l'euro, c'est extrêmement frappant parce que on a l'habitude de voir, de reprocher aux politiques finalement d'avoir une vision de plus en plus courte, d'être de plus en plus dans le court terme. Et on dit, et en particulier, je crois que c'est un discours que les chrétiens tiennent souvent, mais évidemment ils ne sont pas les seuls, il faut retrouver le durée, il faut retrouver le temps long, et nos politiques ont une vision de plus en plus à court terme, et finalement, en passant du septennat au quinquennat, on a fait que renforcer encore cette tendance au court-termisme, la dictature des sondages, c'est que le politique n'a plus d'autre horizon que celui de l'enquête d'opinion du moment. Vous savez qu'à l'Élysée, il y a une cellule qui commande en permanence des sondages et des études d'opinion pour gouverner au plus près de ce qu'on perçoit de façon immédiate de l'opinion publique. Mais en réalité, c'est ce qui se produit autour de cette accélération du temps politique. En fait, littéralement, peut exploser sous nos yeux à travers la crise de l'euro. Parce que tout d'un coup, on a vu des politiques qui sont soumis à une logique financière qui va encore plus vite. Et on a passé toute la semaine dernière, vous avez vu ce qui s'est passé, on a passé toute la semaine dernière à voir les politiques courir après une accélération de plus en plus grande, au point qu'ils semblaient littéralement courir en tous les sens, puisqu'on nous a dit qu'on avait sauvé l'euro, après on nous a dit que l'euro était fichu parce qu'il y avait un référendum en Grèce, après on nous a dit qu'il n'y avait plus de référendum en Grèce, etc. Et finalement, tous les jours, on a assisté à ce bâton complètement affolé des hommes politiques. Et pour avoir organisé au Sénat du christianisme un débat avec des politiques, ils ont, des parlementaires notamment, ils ont eux-mêmes un certain sentiment d'impuissance face à cette accélération et à ce caractère complètement même plus instantané en fait de logique financière. Comment prendre des décisions politiques qui viennent se prendre complètement au jour le jour, défaisant un jour ce qu'on fait la veille, sans encore en retard par rapport à ce qu'on appelle de ce qu'on appelle les marchés. Voilà cette accélération de la politique sous l'effet de l'accélération du mouvement d'opinion est aujourd'hui complètement doublé par l'accélération des flux financiers, donc le sentiment finalement qu'on peut avoir sur une perte de contrôle. Et c'est vrai que quand il y a une perte de contrôle, on dit mais où va-t-on, on a un risque de frappe, on va dans le mur, c'est l'expression familière. Et là, je pense qu'à travers cette crise de l'euro, on touche pour la première fois de manière extrêmement angoissante à cette menace d'une société qui n'a plus de prise sur ses propres évolutions. Et donc on a beau dire c'est l'euro, c'est trop d'euros, c'est pas assez d'euros, c'est l'euro pas assez fédéral, le trop fédéral, les chefs d'État qui prennent le pouvoir sur l'Union européenne, sur les villes, etc. En réalité, ce qu'on voit, c'est vraiment complètement autre chose, c'est-à-dire une perte de contrôle de tous ceux qui sont censés décider. Même s'ils disent qu'ils sont toujours évidemment en contrôle. Et ce que l'on voit de manière très accélérée dans le domaine de l'économie, c'est vrai dans tous les domaines en fait, de l'activité humaine. Et là aussi, quand on essaie de regarder, de dire qu'est-ce qui se passait dans le monde de l'évolution technologique, les évolutions technologiques se comptaient d'abord extrêmement lentement au XXe siècle, puis avec la révolution industrielle. Elles se sont produites en termes de génération, l'électricité, le téléphone, la machine à laver, puis elles se sont produites en termes de décennies. En une décennie, on a vu l'Internet s'installer, et aujourd'hui, elles se produisent en très peu de mois, finalement. Et quand on regarde comment les smartphones enfin, se sont installés comme un objet de consommation courante à l'échelle de la France, de l'Europe et l'ensemble des pays développés lundi au marché, ça s'est produit en réalité en quelques années, même en quelques mois. Donc là aussi, on a une accélération absolument phénoménale du temps qui fait qu'on ne maîtrise rien et on est constamment en train de courir à travers ces évolutions, qui ne sont pas des évolutions, mais des révolutions, et d'essayer de s'y adapter. Et ça aussi, je crois que derrière la publicité qui ne rendait pas extrêmement souriant, derrière le côté plaisant, c'est quelque chose qui facilite un peu plus dans nos conditions de vie, je crois qu'il y a une profonde angoisse. Chacun d'entre nous se dit, mais j'ai plus envie, est-ce que ça va trop vite, est-ce que ça va, est-ce que c'est bien ça que je veux, est-ce que c'est bien la société à laquelle j'aspire. Quand ce qui touche au corps humain, on essaie d'avoir le temps d'une réflexion sur la définition même d'être humain, alors là, c'est bien carrément inquiétant. D'où je trouve pour le coup très heureux qu'on ait su prendre un certain temps pour la révision des lois sur la bioéthique, qu'on ait su prendre un certain risque de laisser voir l'opinion publique en disant on ne va pas changer grand chose, etc. Je crois que ce sont des domaines dans lesquels il faut absolument résister à l'accélération, si ce n'est sinon on risque de se retrouver dans cette situation où on ne contrôle plus rien. Et où on va tout droit devant un crash. La deuxième grande peur liée à l'accélération et au risque de crash, deuxièmement, vous avez aussi des peurs qui sont liées à la déshumanisation, et là, avec la déshumanisation, c'est le risque de perte de sens qui l'accompagne. Moi, je trouve très frappant les débats au sein du neurodécrétalisme. Enfin, je vais vous en dire un mot, je ne vais pas expliquer ce que c'est que le neurodécrétalisme. Je fais une parenthèse pour vous situer les choses.
L'état d'une évolution féminine, c'est un événement annuel organisé pour la deuxième fois cette année à Lille par l'hebdomadaire La Vie, et qui est un grand forum où, comme vous le faites, on invite tous ceux qui veulent, quelle que soit leur conviction, quel que soit leur christianisme ou leur non-christianisme, quel que soit leur rapport à la religion, quel que soit s'ils sont catholiques, leur vision du catholicisme, s'ils sont protestants, leur vision du protestantisme, on invite finalement tous les hommes de bonne volonté à discuter autour du christianisme avec les chrétiens de toutes les grandes questions qui se posent dans la société. C'est ça l'idée, c'est d'avoir un lieu très ouvert où on peut venir réfléchir à toutes les grandes questions. Donc, sous l'intitulé général faut-il avoir peur, nous avions listé plus de 40 débats. Et à ces débats, beaucoup de débats concernant les liens humains, disons, ont rencontré un très grand succès du public. Je vais vous en citer quelques-uns pour vous toucher les choses. À propos de déshumanisation. Nous avons créé un débat intitulé « À quoi servent les jeux ?»« À quoi servent les jeux ?» Et c'est un débat qu'on avait envie de faire parce qu'on nous parle beaucoup de la dépendance. Le gouvernement résoudre ce problème de la dépendance, c'est un problème évidemment qui nous concerne tous dans nos familles, dans notre entourage, c'est-à-dire la prise en charge des personnes, pour le dire rapidement, du quatrième âge, liée à l'augmentation de la durée de vie dont je parlais tout à l'heure. Moi, je suis très frappé de voir maintenant ce débat sur la dépendance a été abordé, d'abord dans le vocabulaire lui-même. La dépendance nous a été présentée comme un risque contre lequel il faut au moins s'assurer. Évidemment, aucun d'entre nous ne souhaite particulièrement ni être dépendant au sens médical du terme, ni avoir dans sa famille, ses parents, des personnes dépendantes. Évidemment, si vous en avez, je sais très bien que c'est très compliqué, en particulier les personnes qui ont la maladie d'Alzheimer. Mais ce qui me frappe beaucoup de la façon dont cette question est posée, c'est que ce mot de dépendance est chargé négativement. Comme si, à un moment donné, le fait d'être dépendant les uns des autres devenait justement un risque qu'il fallait de plus en plus limiter. Je pense que vous êtes en ce moment même dépendant de moi, de la parole que je vous donne, et je suis dépendant de vous, de l'écoute que vous voulez bien me consentir. Et je trouve que le mot de dépendance est en fait un très beau mot. La limite de l'indépendance, c'est l'atomisation complète de l'individu qui est tout seul dans son coin, et c'est la solitude que nous connaît notre société. Le fait que nous soyons dépendants, est-ce que c'est mauvais en soi? Le fait que nous soyons communion, une dignité, même dans des situations où notre corps ne répond plus, où notre cerveau ne répond plus de la même manière. Est-ce que c'est seulement quelque chose qu'il faut cacher, qu'il faut médicaliser, qu'il faut financiariser, qu'il faut déléguer à des prestataires de services? Oui, dans une certaine partie, parce que parfois il y a bien des problèmes concrets, certes, je ne les ignore pas. Mais est-ce que c'est vers cela seulement que nous voulons tendre? Ou est-ce que, et là je pense que le christianisme va avoir une réponse très forte, est-ce que nous voulons reconnaître, au contraire, reconnaître une dignité égale, pas supérieure, mais égale, dans des situations qui sont des situations de dépendance, une humanité égale chez les personnes qui sont en situation de dépendance? Est-ce que, pour le dire autrement, la dépendance est donc juste un risque contre lequel il faut s'assurer, c'est-à-dire un marché en fait, dans lequel on va faire rentrer une entreprise, une prestataire de services, et passer d'une situation de rapport humain gratuit à des rapports humains professionnels, sans doute une très bonne chose, mais aussi qui ont perdu la dimension qu'ils avaient avec la gratuité.
C'est pas un raisonnement complètement à charme, hein. Il était vu comme une cabine, par exemple, dans laquelle on choisit plutôt de favoriser ce qu'on appelle les aidants familiaux. Voilà. Aujourd'hui, nous, on va plutôt aller vers ce qu'on appelle les êtres humains. Alors pourquoi je vous parle de ça? Parce que je pense que ça fait partie de la déshumanisation de notre société, qui est source, je pense, d'une profonde angoisse. Comment ne pas s'inquiéter, chacun d'entre nous, si on nous dit que le jour où nous ne sommes plus performants, le jour où, après avoir été performants, nous sommes dépendants, la perspective est de nous mettre à l'écart en nous faisant bien remarquer que nous ne servons plus à rien. Voilà pourquoi nous avons voulu, au sein du neurodiscutalisme, créer de manière provocatrice un débat à concert des yeux. Vous savez, il y a des expériences assez intéressantes, c'est parce qu'il y a ça à table, où on traiterait, par exemple, des maisons de retraite avec des crèches, voilà, des expériences comme ça, je crois qu'elles sont extrêmement intéressantes. Donc, peur liée à la déshumanisation, perte de sens qui l'accompagne. Ce qui vient d'aborder un peu longuement sur la question de la fin de vie, pourrait être décliné, je dirais, à pratiquement toutes les phases de la vie, et je pourrais vous donner l'exemple d'un deuxième débat qu'on a organisé au sein du numéro du christianisme sur l'amour durable. Est-ce que l'amour se consomme comme tout le reste? Est-ce qu'il est donc jetable? Ou est-ce que peut-être il est encore, pourquoi pas, durable? Voilà donc la déshumanisation et l'idée que finalement nous ne sommes plus que des produits de consommation nous-mêmes. La troisième peur, je vais en parler un peu moins parce que je trouve qu'on en parle beaucoup à juste titre évidemment, mais du coup on se contient, c'est la peur liée à la surexploitation non seulement de l'homme, mais surexploitation de notre environnement. Et là, le risque, c'est plus le risque du crash, c'est plus le risque de la perte de sens, c'est le risque d'épuisement. Il y a eu un livre fait par un géographe américain il y a quelques années, qui a été très intéressant, qui s'appelait Effondrement, et qui a montré comment des sociétés ont complètement disparu après avoir atteint un maximum de prospérité, qui fait que ces sociétés ont épuisé brutalement leur environnement. Alors, on connaît par exemple le cas de l'île de Pâques, qui est une société qui a pratiquement disparu pour cette raison, c'est-à-dire en raison d'un épuisement de son environnement lié à une sophistication extrêmement grande de sa société et donc des besoins de plus en plus grands, et donc une déforestation qui tout d'un coup devient incontrôlable et une disparition, une quasi-disparition de notre côté. Il y a beaucoup de cas qui sont cités dans ce livre qui s'appelle donc l'effondrement, et notamment le cas de la société des victimes du Groenland, dont on a un monstre pour parler que l'île de Pâques. Cette société des victimes du Groenland, qui a été une société très, très sorcière, puisqu'il n'y a pas que Christophe Colomb qui a découvert l'Amérique, mais des victimes qui s'est installée au Groenland. Et ils sont arrivés avec une culture qui était fondée sur la consommation de viande de bœuf. Ne pouvons pas se couper de cette consommation à l'occasion d'une évolution climatique. Ils se sont très vite épuisés et la société du Groenland a disparu purement et simplement. Et si on se demande des fouilles archéologiques, on en a retrouvé la trace. Et là-dessus, la thèse de ce géographe, Jared Diamond, dit au fond, ce modèle-là d'une société isolée, qui est une société ultra sophistiquée, et qui tout d'un coup épuise son environnement parce qu'elle n'a pas voulu remettre en cause son mode de vie. Ce qui était vrai d'une société isolée dans une île, un petit île du Pacifique, dans un coin du Rwanda, est-ce que ce n'est pas vrai aujourd'hui dans l'ensemble de notre planète, est-ce que c'est une société isolée à l'échelle de l'univers? Là aussi, je crois que nous sommes tous conscients de ce risque, et nous sommes, s'il y a une peur, s'il y a une inquiétude, je dirais qu'elle est double, nous avons peur de ce scénario, mais nous avons aussi peur de remettre en question nos modes de vie, et donc nous sommes paralysés finalement entre ces deux peurs. Voilà, je peux pas ne pas rajouter à ces trois peurs la peur particulière de chrétien. Donc, je vais vous dire un mot. Moi, je rencontre, je ne sais pas dans quel état d'esprit vous êtes, si vous êtes chrétien ou pas, encore une fois, je crois qu'on est dans le même esprit ici qu'au stade du christianisme. Chacun vient avec son itinéraire et son point de vue personnel. Moi, je me permets quand même d'observer, à partir de mon point d'observation, justement, je trouve qu'aujourd'hui, les chrétiens sont très inquiets. Ils sont très inquiets. Il y a plusieurs formes d'inquiétude. Il n'y a pas que les intégristes qui sont inquiets. C'est vrai que les cathos bannes aussi sont inquiets, parce qu'au fond, soit ils ont le sentiment que leur église évolue dans un sentiment dans le sens qu'ils ne reconnaissent plus, ou dans ils ne se reconnaissent plus, soit au contraire, ou peut-être même des deux à la fois, ils disent tout va disparaître, ces familles sont en train de vivre dans la société, la foi n'est plus transmise. Et finalement, il y a une grande inquiétude sur la place du christianisme dans notre culture. Cette question de la rupture de transmission, est-ce que nos enfants nos enfants, en tout cas la génération d'après, a reçu quelque chose du christianisme, c'est une source d'inquiétude pour beaucoup de chrétiens que je rencontre. Je suis à peu près persuadé qu'il y en a plus d'un parmi vous qui n'ont fait ce petit questionnement, dire qu'est-ce qui va se passer finalement, est-ce que ce qui est très important pour moi, qui donne sens à ma vie, sera important et sera transmis aux générations d'après. Et puis, il y a, je dirais là-dessus, quelque chose que moi je conteste assez brutalement, c'est-à-dire que dans cette inquiétude que je comprends, il y a aussi une nostalgie de l'époque où les chrétiens étaient au centre de la culture, contemporaine. Mais tout ça, c'est fini. Aujourd'hui, il y a une certaine marginalité du christianisme dans notre société. Les chrétiens ne sont plus au centre de la culture, ils ne contrôlent plus la société, ils ne font plus la loi, ils ne dictent plus les comportements. C'est fini, c'est terminé, ça ne reviendra pas. Donc arrêtons d'en parler. Et en plus, il se peut que ce soit une bonne chose. Si on a le temps, je suis prêt à en reparler avec vous si la question vous intéresse. Donc, là, je sens vraiment une inquiétude profonde, qu'encore une fois, je partage, et à la fois, donc je ne voudrais pas que nous soyons prisonniers, une inquiétude des chrétiens qui ont le sentiment que leur christianisme est en voie de disparition. Nous sommes les derniers des mots de sens. Voilà, la phrase qui pourrait résumer tout ça. Et se rajoute à cette peur de la dissolution, de la sécularisation, maintenant, une peur que je vois aussi beaucoup monter dans le sens. C'est une peur identitaire, là aussi, mais c'est une peur liée à la présence de l'islam, aussi je l'ai évoqué tout à l'heure, et c'est une, en gros, on va monter, c'est-à-dire, est-ce qu'on est dans une islamisation de notre société, est-ce que, finalement, quand on voit ce qui se passe en Égypte, avec les massacres de peuples nigériens, il y a une centaine de personnes qui ont été tuées la semaine dernière dans un. Par des islamistes, des sectes islamistes, est-ce qu'on n'est pas complètement naïf et on est face à un spectre d'une islamisation de l'Europe et de notre société? Là encore, un livre qui vient paraître sur ce sujet. Alors, moi, je voudrais juste, pour avoir ce point, dire que je ne pense pas que la réponse. Se trouve ailleurs que dans un approfondissement du christianisme. Parce que dans un approfondissement du christianisme, je dirais très gentiment aussi si ça vous intéresse tout à l'heure, je pense que c'est dans un approfondissement du christianisme qu'on trouve une véritable réponse à ces inquiétudes. Et non pas dans un retournement, dans un refermement sur les crispations identitaires. Il m'arrive de dire que la réponse à cette question, c'est un chauffeur de taxi musulman qui m'a venu. J'étais dans un taxi et puis le conducteur du véhicule, au bout d'un moment, on fait la conversation, évidemment, et puis il me dit qu'est-ce que vous faites dans la vie, en fait, j'avoue que je suis journaliste. J'ai vu que je ne faisais pas tellement plaisir, déçu, c'était une très belle profession, je l'ai rendu. On n'avait pas l'air d'avoir beaucoup d'estime pour les journalistes. Et puis, il me dit, mais alors, on est venu pour faire le journal.
deuxième erreur, penser que Michel est un peu distrait pour un homme chrétien. Vous parlez pour un journal chrétien, mais vous n'êtes sûrement pas chrétien vous-même. Si je suis chrétien, je crois qu'il y a une main dehors de son patrimoine. Mais grand sourire. Mais enfin, je ne rencontre pas. Je disais, bon, vous n'avez pas rencontré de chrétien. Une autre, j'ai l'impression que la seule religion en France, c'est l'argent. Alors, bon. Vous allez me dire, vous êtes sûrement arrivé en France la veille. Vous avez l'occasion de bien mesurer l'état de notre société, parce que c'est possible. Mais je me suis dit, au fond, la présence de l'homme est peut-être une occasion. Dans un premier temps, on peut avoir peur, mais en réalité, peut-être que la présence de l'homme est une occasion extraordinaire de retrouver ce que nous sommes. La présence de l'autre nous renvoie à ce que nous sommes. Quand les Suisses ont voté pour savoir s'ils allaient construire des minarets, ou pas construire des minarets, il y a une votation en Suisse sur ce sujet, je me suis dit, mais ils ont peur des minarets des Suisses, bon, je peux les comprendre, hein, c'est-à-dire que je n'imagine pas la Suisse comme un pays des minarets. Mais il y a quelque chose qui est frappant en Suisse, plus encore peut-être que chez nous, c'est un pays où il y a des protestants et des catholiques, donc c'est un pays où il y a deux christianismes finalement assez différents, les temples sont vides, les églises catholiques sont vides. Est-ce que quelqu'un a fait, est-ce que les musulmans ont fait peur aux chrétiens qui sont restés se terrer chez eux en Suisse? Je n'ai pas l'impression. Et donc, la présence de l'homme, pour moi, est une invitation à revenir à ce que nous sommes et à retrouver nos propres racines. C'est ça la réponse à la peur de l'homme. Et cette situation des chrétiens, en fait, elle est pas séparée des problématiques de l'être de la société. C'est pour ça que je l'aborde avec vous ce soir, parce que cette question de la peur de l'homme est évidemment constamment sur le terrain politique, sur le terrain médiatique, surtout dans une société qui en fait l'intelligence de l'autre, la peur de l'autre, c'est quelque chose de normal. Il est normal d'avoir peur. Il est normal d'avoir peur de l'islam parce qu'il y a des problèmes dans le monde entier. Il est normal d'avoir peur de l'islam parce qu'il pose des problèmes dans notre société. Il doit être dépassé. Et la façon de dépasser cette peur, c'est l'approfondissement de notre propre culture, de notre propre tradition dans ce cas-là d'authentique. Et c'est en cela que je pense que la réponse des intégrés, pour dire, est une réponse qui est inappropriée tout simplement parce qu'elle n'est pas authentique. Elle est fabriquée, elle est idéologique, elle n'est pas spirituelle. Et la raison pour laquelle nous avons organisé des tâches de religionisme, elle est là. Je crois qu'on a besoin, face aux peurs, il y a la tentation de repousser soi, et cette tentation, encore une fois, elle est normale. Je pense qu'on ne peut pas la condamner comme ça, a priori. Mais la vraie réponse, c'est ce que j'appelle, pour ma part, l'ouverture de cœur. L'ouverture de cœur, c'est quelque chose, dans cette année, on parle d'œcuménisme, de dialogue interreligieux, tout ça. C'est-à-dire, l'ouverture de cœur, c'est quelque chose de beaucoup plus profond, c'est quelque chose de spirituel. C'est-à-dire, moi, j'essaie d'aller plus profondément vers ce que je suis, plus profondément dans mon cœur, vers ce que je suis, et en allant plus profondément dans mon identité, eh bien je me rends compte que cette identité est une identité qui est nécessairement ouverte à l'autre. Bon, c'est évidemment beaucoup plus long que ce que je voulais vous dire, mais je vais essayer pour terminer de vous faire quelques toutes petites réflexions à partir de ce que je crois être le comme je viens de commencer à faire, le christianisme. Je crois que cette réflexion du christianisme, cette réponse spirituelle profonde de l'ouverture de cœur, est une réponse qui éclaire l'ensemble des questions que j'ai évoquées. Précédemment. Il faut quand même se souvenir que la peur, elle est au cœur du christianisme. Le christianisme, elle est au cœur de la Bible, même. Les prophètes qui sont bègues, et puis Yahvé dit « va-t'en parler à ton peuple ». Le premier réflexe, c'est évidemment de dire « je ne peux pas parler, je suis bègue ». Vous connaissez évidemment l'histoire de Jonas. Saint Jonas, c'est assez incroyable de voir toutes les mesures qu'il prend, toute la fuite finalement, qui est celle de Jonas, parce qu'il ne veut pas parler. Bien, moi je crois que la condition même de notre christianisme dans la société d'aujourd'hui, notre premier réflexe, c'est la fuite. Parce que nous avons peur, et c'est normal d'avoir peur. Et cette chute nous conduit, je pense, tout droit, c'est elle qui nous conduit à la catastrophe. Et nous avons besoin, je dirais, comme Jonas, peut-être, de faire cette traversée de la tempête, d'être rejeté du ventre de la baleine, j'allais dire, et d'affronter, je dirais, courageusement notre temps pour donner une parole prophétique. Je crois que c'est ça la situation du christianisme aujourd'hui. Une parole prophétique face aux peurs de la société. Ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est de dire que même Pierre a eu peur. C'est quand même assez frappant de se dire que la première adresse de Pierre, c'est le remaniement. Je trouve d'ailleurs très rassurant d'être dans une pandémie, une communauté de la semaine, d'être dans une église catholique qui s'est fondée par quelqu'un qui a eu peur à ce point-là. Ça veut dire que on a notre place, on a notre chance. Même Pierre et peut-être son successeur commence par avoir peur. La peur et le remaniement qu'elle peut provoquer, et bien en même temps Pierre est allé jusqu'au bout puisque finalement il a donné sa vie pour le Christ. Donc je pense qu'à traverser la peur, c'est partie de l'expérience chrétienne. D'ailleurs peut-être même que Jésus l'a vécu, hein, en fait tout ce Christ, pourquoi m'as-tu abandonné, le fait du Christ. Au vendredi, le jour du vendredi saint, pourquoi m'a-t-il abandonné ? Qu'est-ce que c'est qui met un grand coup de peur ? Et je crois que la traversée de la peur, elle fait partie de l'expérience et de l'expérience chrétienne. Finalement, je ne sais pas si vous le dire, mais on pardonnerait pour le faire aussi, mais ça fait la traversée de la mort, finalement, qui nous conduit à la résurrection. Moi, je crois que c'est ça la réponse du christianisme. Aux peurs de notre société, c'est une réponse spirituelle, évidemment avec des traductions assez concrètes, réponse spirituelle, ne nous arrêtons pas à la mort, acceptons, laissons-nous aller jusqu'à la résurrection. Je crois que c'est ça le grand défi, la grande réponse aux peurs de notre époque. En soi, la peur n'est pas mauvaise. Finalement, quand on regarde les animaux dans la nature, une biche qui broute, si ça nous arrive d'en regarder, ce qui aurait été intéressant de voir que c'est un animal qui est en phase logique de consommation, hein, comme le goût, comme gros, mais enfin très très régulièrement, il y a ces instincts qui lèvent la tête et il regarde le goût. Et ce que je veux dire, c'est la peur, et la peur, c'est parce qu'elle est au cœur de la vigilance qu'il faut avoir. Et moi, je trouve que nous devons, c'est la condition des chrétiens, je pense que ça devrait être l'attitude de tous les citoyens, retrouver une certaine vigilance, retrouver un certain sentiment d'alerte permanente. Oui, nous avons peur, parce que nous sommes en situation de crise, heureusement que nous avons peur, parce que c'est peut-être ça qui vient nous sauver. Parce que nous avons conscience que ça va trop vite et qu'il faut ralentir. Nous avons conscience qu'on est dans une déshumanisation et qu'il faut lutter contre cette déshumanisation. Nous avons conscience qu'il y a une marginalisation des rapports humains. Ben, nous avons peut-être pour cela envie de nous arrêter et d'éviter cette déshumanisation des rapports humains. Voilà, c'est ça pour moi la condition chrétienne. Voilà, d'ailleurs, vous savez la force que je voudrais terminer là-dessus, vous savez la force qu'a eu la phrase de Jean-Paul II, n'ayez pas peur. Une phrase qui est en français, évidemment, à l'évangile, mais c'est une phrase qui n'est pas, comme vous le savez, énorme à l'échelle de l'histoire du continent européen. N'ayez pas peur. Alors que Jean-Paul II avait la phrase complète, et n'ayez pas peur, ouvrez toutes les grandes portes au fil. Je crois que voilà, la réponse à la peur pour terminer, je vais parler de la biche, je veux dire, mieux vaut des biches que des autruches, parce que par rapport à la peur, l'autruche, d'après ce que je crois comprendre, vous avez dû faire, mais n'a pas la même attitude que la biche, au contraire, elle va enfouir sa tête dans le sable. Donc, affronter nos peurs. Être comme des biches dans la lèvre, être capable de traverser cette peur. Donc, juste répondre à la peur, on va tenir par un repli sur soi, mais c'est l'approfondissement de soi, c'est l'approfondissement pour ma part, c'est l'approfondissement de la foi. Et je crois que la société française a profondément besoin du chrétienisme pour ça. Si les chrétiens sont capables d'être eux-mêmes, d'attester de ce croire, ce que me conseillait finalement sans savoir que ce soit la société musulmane, de contester aussi les choix de société. Et bien nous rendrons un grand service à notre société, et je suis persuadé que c'est ce que vous faites déjà. Voilà. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté.
Je vous avais endormi, mais maintenant vous êtes...
Voilà.